on continue cet épisode charnière. Je dis épisode charnière puisque on vous l'a annoncé dans le début de cet épisode de septembre, on va l'appeler comme ça, qu'on allait un peu reformater notre podcast en hebdomadaire. Et ça n'a pas été le cas en septembre, ça ne sera pas le cas en septembre, puisque vous venez d'écouter normalement l'enregistrement qu'on a fait avec Philibert. C'est un peu, tu sais, c'est retour vers dans le futur, face au vent, c'est quoi déjà?
Oui.
Retour vers le futur?
Oui.
Ah, je me souviens plus.
Oh là là.
Ouais, n'est-ce pas?
Ouais, ouais,
c'est
ouais.
Retour vers le futur, donc, puisque c'est un truc qu'on n'a pas encore enregistré et dont on vous parle déjà. Et dans cet épisode, dans ce numéro, on va vous parler de la Gen Con, parce que ça devient un incontournable. On était en train de parler avec les gens qui sont dans la chatroom, puisqu'on a une chatroom ce soir encore, et puis j'espère que la prochaine fois, c'est le 18 ou le 20... Non, ça peut pas être le 18 ou le 23 septembre.
25
septembre. Donc ça sera un jeudi, ça sera un de ces deux soirs, pour que vous soyez vraiment au courant. On a une chatroom, on espère avoir la possibilité d'interagir avec vous ce soir-là. On est en train de parler du flip. Comme le flip, comme Cannes, comme Essen, la Gen Con, c'est devenu un événement incontournable avec un nombre important de francophones qui ont fait le déplacement. Important, alors je sais pas s'il y avait la quantité, mais il y avait la qualité.
On va dire ça comme ça. C'est-à-dire non, mais il n'y a pas encore beaucoup de joueurs français qui font le déplacement parce que c'est un budget bien plus important que d'aller en Allemagne.
Mais les éditeurs,
au niveau professionnel, il y a tout le monde.
Tout le reste, et puis il y avait Catala, il y avait Bosa, il y avait...
Et puis la Gen Con, ça devient un pré-Essen, entre guillemets, ou dans le sens où beaucoup de lancements de jeux, surtout les jeux américains, sont faits maintenant à la Gen Con. Et arrive d'ailleurs dans nos boutiques avant Essen, c'est très bien, ça tombe bien, parce que ça permet de lisser un peu les achats. Les annonces aussi, les effets d'annonce.
Je vais faire une aparté, puisqu'on a l'idéal du Gobelin Rose dans la chatroom. J'ai beaucoup apprécié les deux derniers ou trois derniers épisodes du Gobelin. C'est très agréable, c'est pas du tout comme nous on fait, c'est concis, c'est efficace.
Chacun son créneau.
Oui, donc écoutez le Gobelin Rose, écoutez les épisodes là qui sortent. J'espère que la régularité va être au rendez-vous parce que j'aime beaucoup.
Ouais, parce que c'est vrai que j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas écouté, parce qu'il y a eu un moment, il y avait eu une baisse de régularité. Et l'air de rien, en fait, c'est bête, mais dès qu'il y a une baisse de régularité, ben du coup, t'oublies en fait que tu peux aller suivre.
Tu rafraîchis plus ton flux.
Ouais. Ouais. Ben voilà. Mais donc, je vais réécouter ça.
Donc là, c'est eux, ils sont plutôt dans l'ouest de la France. Et à l'ouest de l'océan Atlantique, il y a l'Amérique, Indianapolis et la Gen Con. La Gen Con Indy.
Oui. Indy, elle s'appelle maintenant depuis 2003.
Parce qu'elle n'était pas, elle a pas toujours été à Indianapolis en fait.
Ouais, non, alors je vais pas vous faire tout l'historique de la Gen Con, mais j'ai quand même noté trois trucs. Pourquoi ça s'appelle Gen Con déjà? C'est parce qu'en fait le Gen, ça veut dire Geneva, convention. Parce qu'en fait Geneva, c'est là où était Gary Gygax quand ils ont fait les premières Gen Con.
On en a parlé déjà de ça.
Ouais, on a dit l'année dernière. En fait, c'était à Gen Con 0, entre guillemets, en 67, ils étaient chez lui, ils étaient 12.
Ça va.
Mais sinon, après, ils considèrent que la vraie Gen Con, c'est celle de 68, et là, ils étaient déjà une centaine, et à la base, c'était une convention de Wargamer.
1968,
ouais.
Ah, Wargame historique.
Eh oui, parce que 1968, le jeu de rôle n'existe pas, le jeu de société moderne existe, enfin, il y a quasiment que les Wargames encore à l'époque. Gary Gygax, d'ailleurs, c'est l'auteur, c'est l'auteur de Donjons et Dragons, quoi. C'est le papa du jeu de rôle, quand même.
Tout à fait.
Voilà. Et c'est donc aussi le papa de la Gen Con. Alors, Gen Con, depuis, c'est quelque chose qui est devenu, qui est racheté. C'est une boîte privée qui gère maintenant la Gen Con. C'est d'ailleurs un ancien de Wizard, c'est Peter Atkinson, qui gère ça. Et ils sont arrivés en 2003 à Indianapolis parce que c'est plus simple pour les hôtels. Donc, je crois qu'ils sont à l'hôtel Marriott. Non, mais c'est ce qu'ils disaient à la fin. Ils étaient arrivés à un stade où il y avait trop de monde et il fallait gérer les hôtels, donc ils ont choisi Indianapolis, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Gen Con Indy, mais enfin tout le monde dit toujours la Gen Con. Et petit truc marrant d'ailleurs, Gen Con, j'ai vu les Français, on a tendance à toujours la coller, alors que les Américains, ils séparent bien Gen pour Geneva et Con de convention, ils mettent un espace entre les deux. Voilà, qu'est-ce que je peux dire, le succès de l'année, ben en fait c'est aussi fort qu'Essen, je pense, en succès, parce qu'ils disent 56 000 visiteurs uniques pour 184 699 entrées. Sur 4
combien
jours.
180
185 000, on va dire, entrées. Donc c'est à peu près...
Ça.
Voilà, Essen, c'est 150 000 entrées. Alors, Cannes, c'est 150 000 entrées. Essen, il dit 150 000 visiteurs. Je sais pas comment ils comptent.
Et
la Gen Con, eux, ils font... Ah, la Gen Con aussi, tout est payant. Hein.
Oui, non, mais on parle de Cannes. Cannes, c'est un peu particulier dans le sens où.
Oui, c'est gratuit.
C'est le palais des festivals.
Ouais, mais c'est Cannes, moi, je rentre et sors plusieurs fois dans la journée, je compte à chaque fois. Hein.
Ouais.
Donc, 150 000, tu les fais vite.
Ouais.
Bon, après, c'est peut-être pas tout le monde qui rentre et qui sort plusieurs fois non plus, mais. Mais voilà. Donc, alors, au moins, la Gen Con, ils sont de la transparence. 56 000 visiteurs. C'est énorme, hein. C'est une grosse croissance chaque année. Hein.
Et ils disent que c'est la plus grosse convention de jeux de société du monde. Et peut-être qu'ils ont raison, en fait.
En tant que convention, ouais.
Et nous, on est dans un continent. Hein.
Voilà, bon, c'est différent. Alors, j'y suis pas allé. Hein,
c'est
mais
le nouveau monde là-bas.
C'est quand même vraiment différent de ce qu'on voit à Essen ou etc. C'est-à-dire que vous avez
les
stands. Non, il n'y a pas la currywurst déjà. Ouais. Il y a d'autres choses, mais il n'y a pas ça. Mais il y a un endroit où il y a les stands des éditeurs. Et puis après, en fait, il va y avoir plein de salles avec juste des tables. J'allais dire à perte de vue, mais enfin bref, des tables pour jouer.
Oui, alors qu'à Essen, il y a certains éditeurs les plus gros qui disposent de tables. Et puis quand tu vas, par exemple, chez Pearl Games, ils ont deux tables. Et si tu n'as pas réservé ta table ou si tu n'attends pas d'avoir de la place, tu ne peux pas jouer. C'est vrai que et c'est ce qu'on
à la
GenCon
aussi. Tu vas devoir réserver des fois tes tables, tes
c'est
démos.
Bien ça. Non, c'est bien.
Et tu vas payer.
Quoi ? Alors je savais que tu devais payer ton autographe de Will Wheaton.
Tu payes tout, les autographes. J'ai vu parce que j'ai regardé, j'ai suivi l'actu Yellow. Donc si tu voulais jouer à Zombie 15 sur le beau plateau, le beau diorama là, en 3D, tu payais $1. Si tu voulais la dédicace de Biboon, tu payais $1 ou $2 et ainsi de suite.
Oh là là.
Au moins, voilà quoi, tu fais. Quand tu l'as, enfin, tu l'as demandé quoi.
Alors que.
Bah, des fois, t'as des trucs dédicacés, des goodies
Marcus,
qu'on récupère.
Je sais pas, ok.
Ouais, non, j'en sais rien. Enfin, bref, c'est leur mentalité, hein, je sais pas. Mais c'est comme ça.
Tout c'est ça un peu plus cher, non, aussi, l'entrée que. J'ai l'impression.
Alors, j'ai pas regardé du tout combien ça coûtait les passes et tout, puisque je ne.
J'ai l'impression que
c'est. Pas. C'est, mais c'est possible, ouais.
Vraiment plus cher que qu'Essen. Essen, c'est. 25€ globalement
pour les
4
jours. Ouais.
Et j'ai entendu dire que c'était plusieurs dizaines de dollars, genre $50 pour le salon.
Ah ouais.
Donc
ouais.
C'est un autre prix. Bon, après. Voilà.
Bon, c'est de la grosse convention.
Des tables pour jouer, des tables pour attendre. Donc, Catala nous racontait qu'il y avait des salles d'attente pour les conjointes de joueurs. Pour faire du crafting. Alors visiblement c'est pas que pour faire du tricot. On peut faire plein de choses différentes.
Ouais, il y a du die et tout hein.
Ouais, du do it yourself et on peut faire des choses qui seront en rapport avec le jeu sur place. Ça c'est pas mal.
Et pour
c'est pas mal, ces Américains, ils s'en foutent ces Américains.
Voilà, on n'y est pas allé hein, je rappelle. On en parle mais sans y être allé. Mais on connaît pas mal le monde autour de nous qui est allé. J'ai lu particulièrement les reportages qu'a fait Fendel sur Ludovox. Il a aussi ramené de nombreuses vidéos et des interviews audio, donc
allez voir.
Tout ça, c'est sur Ludovox, voilà. Il a fait les photos justement des salles de crafting notamment, et il reporte bien, on voit bien un petit peu l'ambiance un peu folle qu'il peut y avoir. Alors j'ai noté plusieurs choses, donc notamment, eh bien, comme je disais, la Gen Con, c'est surtout l'objectif pour les éditeurs, c'est beaucoup d'annonces et de sorties de nouveautés. Par exemple, Fantasy Flight, ils font carrément beaucoup d'annonces sur leur jeu chaque année là-bas, sur leur terre.
Je peux faire un aparté ?
Vas-y.
J'ai comparé cet après-midi le jeu de société, le monde du jeu de société à une famille. C'est-à-dire, on s'extasie sur l'échographie, on adore les petits-enfants, et après, ils grandissent, et puis on les oublie, tu vois. Et c'est un peu pareil, là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle de plus de mini-villes Marina, et on parle, enfin je te prends un exemple, c'est un exemple comme beaucoup d'autres, Armada, où on parle beaucoup plus de ces jeux-là que des jeux qui sont sortis, qui sont déjà sortis et auxquels on joue. Quoi.
Ouais, exactement. Ça,
c'est un peu triste, hein, mais.
C'est ce que j'ai. Ouais, ouais, carrément. Hein, en fait, on parle à chaque fois de ce qui va arriver dans 3 ou 6 mois, et alors qu'on oublie de parler de ce qui vient de sortir tout juste.
Puis faites pas de gosse, après ça grandit, puis. On peut pas les mettre dans le formol.
Voilà. Mais quand on parlera des jeux de l'été, ouais, on verra. En fait, justement, moi, cet été, j'ai fait que je n'ai pas joué à des nouveaux jeux. J'ai sorti, en fait, les jeux que j'avais achetés avant et que j'avais pas joué, par exemple.
T'as pas joué à Miniville ? Bravo.
Ah, si, justement, si Miniville. Mais ouais. Sinon, les autres, justement, j'ai sorti, en fait, essentiellement, j'ai sorti des jeux que je n'avais encore pas joué.
Et Star Wars Armada, moi, ça me fait de l'œil.
Eh,
mais
voilà.
Parce que je suis la cible.
Alors, chez Fantasy Flight, donc, ils ont annoncé plein de choses. Donc, attention, si vous aimez Star Wars, je sais pas, allez voir votre banquier, prenez un rendez-vous avec votre banquier et faites un échelonnement de paiement.
Sinon, les reins, ça se vend bien aussi.
Ouais, donc, il y aura les nouvelles vagues de X-Wing, etc., admettons. c'est des vaisseaux qu'on connaît pas. Ouais. Il y a surtout, effectivement, ils ont annoncé Star Wars Armada. Donc, on reste dans l'esprit X-Wing, mais on va un cran au-dessus, puisqu'on gère une flotte.
Oui, mais ils ont été malins. Ils se sont dit, les gros, le destroyer, ouais, tout ça, on va pas en vendre beaucoup, parce que les gens peuvent pas les mettre dans leur salon. Donc, ouais, on va miniaturiser.
On va changer d'échelle.
Voilà, on va changer d'échelle. Et comme ça, ils pourront quand même, on va pouvoir vendre du destroyer et des gros vaisseaux. C'est très fort.
Voilà, donc bah, en gros, voilà, Star Wars Armada, a priori, c'est une très grosse boîte, c'est encore plein de matos, plein de figurines, avec un concept. À mon avis, ils ont un petit peu fait adapter le jeu par rapport à X-Wing. On verra. Moi, je ne pense pas craquer, mais tu sais, je m'engagerai pas, je ne peux pas dire. J'ai quand même déjà quelques X-Wing à la maison.
N'est-ce pas?
Mais encore une fois, c'est pareil, X-Wing, je sors pas si souvent que ça. Est-ce que vraiment il a besoin d'avoir un jeu en plus? Je crois pas. Ou alors, il faudra que je choisisse entre les deux, mais le plus simple, c'est de garder X-Wing. Ils ont surtout annoncé, et là c'est incroyable parce que là c'est là où on voit que FFG sont très forts. D'abord,
XCOM.
Ah bah, XCOM, j'en ai le croisement de deux trucs à succès qui sont Descent et Star Wars, avec Imperial Assault.
Ouais, tout à fait.
Et là c'est vraiment, c'est, voilà, vous connaissez Descent, donc le jeu d'exploration de
Porte Monstre Trésor.
De, voilà, de donjon avec Porte Monstre Trésor, etc. Et puis level up des personnages un petit peu. Eh bien,
Excuse-moi, un jeu asymétrique avec qui n'est pas un jeu de rôle, mais avec un maître du donjon, ce qui pose un peu des problèmes parce que soit le maître du donjon il explose ses joueurs, ou soit les joueurs ils massacrent le maître du donjon. C'est un peu ce que je regrette dans Descent. Mais oui, un jeu très agréable avec beaucoup de règles et qui a bénéficié l'année dernière ou l'année d'avant d'une V2.
Ouais, la V2 est arrivée à peu près il y a 2 ans en anglais, et 1 an et demi en français.
Et maintenant, bah, c'est automatisé façon Star Wars.
Incroyable. Et donc,
incredible, impressive.
Et la V2 de Descent, elle avait déjà simplifié le jeu, donc ils ont dû rester sur cette lancée-là. Pour faire, ils se sont dit, c'est vrai, c'est très bien. Ils se sont dit, on a un jeu qui marche super bien avec les donjons, on a une super licence, parce qu'en fait, quasiment tous les 3 à 6 mois, il y a un nouveau jeu sur Star Wars qui sort. Et ils se sont dit, ah, comment on pourrait faire? Et donc, ils ont croisé les deux. Et donc, en gros, c'est, tu pars à l'attaque de peut-être l'étoile noire ou un truc comme ça dans la campagne qu'il y aura dans Imperial Assault.
Ça ne m'attire pas du tout.
Sur la couverture, on voit Dark Vador et tout, mais je crois pas qu'il soit dans les figurines qui sont dans la boîte.
Ah non.
Ça t'attire pas? Bah, pour ceux qui aiment Descent, je pense que ça va marcher. Moi, j'ai déjà Descent, auquel je ne joue pas pour l'instant parce que mes enfants sont trop jeunes. C'est pas mon type de jeu, hein. Encore une fois, on est sur un public peut-être un peu plus américain, un peu plus figurine. Mais en tout cas, ça fait partie des grosses annonces.
Et ça se passe quand? Dans quel contexte de film? C'est, tu sais ou pas?
Absolument pas.
Non, s'il y a Dark Vador, de toute façon, c'est dans la trilogie.
Oui, c'est dans la trilogie. Là, mais il y a eu 2 étoiles noires.
Je sais pas. Après, l'assaut. Et donc,
je pense que c'est la 2e étoile noire. Parce qu'on voit les sortes de... C'est quoi? Les AT... les petits. Les petits dès que les Ewoks, ils flinguent facilement. Bon. Un AT-AT, non, c'est AT-RT, je crois, les petits.
Je sais pas assez quel est... non. Et autre sortie qui a fait beaucoup de bruit, c'est donc XCOM The Board Game chez Fantasy Flight Game.
De Eric Lang.
Un jeu qui allie iPad et jeu de plateau. J'avais pas entendu ça.
Ouais, si.
J'ai pas joué à XCOM, donc...
Alors, je connais pas XCOM, le jeu vidéo non plus. L'idée, c'est quoi? C'est une invasion alien, avec des vaisseaux qui vont... des vaisseaux aliens un peu comme Independence Day, qui vont venir se placer au-dessus des villes pour les détruire. Et donc les joueurs vont devoir tenter de sauver,
repousser
la Terre. L'application iPad, a priori, oui, elle va gérer ce genre d'événements, un petit peu, les vaisseaux aliens, etc. Et les joueurs humains, eux, vont tenter de repousser les attaques, d'avancer sur différents axes. Mais ils le font en travers de jets de dés. Là,
quoi?
Oui, jette des dés. Et a priori, en fonction des résultats sur les dés, ça leur permet de réussir ou pas les missions. Et ensuite, ils en rendent compte sur l'application qui prend en compte pour l'événement suivant.
C'est pas con. C'est pas con parce qu'en fin de compte, le jet de dés, c'est...
C'est super simple, du coup.
Non. C'est super simple à porter.
Voilà.
Mais, enfin, la sensation...
Tu jettes des vrais dés, quoi.
Des vrais dés, le fait que... Si tu... En fait, c'est t'appuies sur un bouton pour avoir le résultat d'un dé, c'est pas comme si tu jettes...
L'iPad ou sur une tablette Android aussi, hein, je pense, sera à côté du plateau.
Oui,
quoi,
mais je veux dire, c'est bien qu'ils aient gardé les dés. Pour moi, c'est bien.
Ouais. Il y a 4 rôles différents. En plus, les gens ont des rôles différents, etc. On retrouve, le jeu de dés, au sens large, je veux dire, avec des dés customisés, machin, il y a quand même plein de jeux qui disent ça. Et puis, il y a peut-être un petit côté un peu comme dans Epic Duel, non, c'est pas, comment ça s'appelle?
Star Wars Epic Duel?
Non, c'est pas ça. Je me trompe. Il y avait Dédé, mais ça compte pas.
C'est pas celui-là.
Non, l'année dernière, donc tu gueulais Fire One.
Ah, c'est
Space Cadet. Dice Duel. Voilà, avec la gestion des dés un petit peu où tu te passes les dés en fonction des résultats, hein, tu vas réussir ou pas.
Chacun a un poste bien défini et en fait les dés, le résultat des dés va servir à un profil particulier, ouais, mais pas tout le monde en fait.
Alors moi ce qui m'intéresse là-dedans, alors je sais qu'un jeu qui sort, là il l'annonce, il va sortir fin d'année chez FFG, sans doute plus tard chez Edge, ouais, l'année prochaine, c'est pour moi j'étais en train de réfléchir, je me disais il faudrait que je suis sûr qu'à terme c'est tous ces appareils numériques. Tu vois, on dit, on fait une adaptation dessus, et puis à côté, t'as la version. C'est sûr qu'on va les croiser. Trouver un moyen de les croiser, tu vois. Comment moi, je réfléchissais à deux, trois idées, mais c'est écrit sur un bout de papier chez moi, et puis c'est tout. Et
c'est
puis
là, même pas sur ton iPad.
Non, enfin, sur l'iPad, c'est c'est dans un drive. Mais bref, je veux dire, début, ça commence par un papier, et ça finit sur le drive. Mais je vais pas plus loin pour l'instant dans le concept. Là, si ça sort maintenant, c'est que ça fait un an et demi, deux ans que...
C'est en développement.
Ouais, que c'est en développement, que Rick Lang en tout cas a bossé dessus.
Mais ça fait combien de temps qu'on parle de iPhone?
Ouais,
pensé cet après-midi,
mais
en fait,
sans aller à iPhone, tu vois, là c'est juste, voilà, tu réfères tes actions et il te génère déjà au moins des événements, des choses comme ça, un peu d'aléatoire.
Oui, oui, mais ça fait longtemps.
Mais le iPhone,
que,
ça fait presque 3 ans. C'était il y a 3 ans, c'était une première saison.
Ce cross-platform là a commencé à maturer.
Oui.
Donc effectivement.
Voilà, mais je pense qu'on peut aller vers des mécanismes un petit peu où, tu vois, une partie de l'aléatoire peut être gérée par la tablette. Mmh. Tu vas en référer à la tablette et ensuite, elle va te générer autre chose. Je pense qu'on peut y gagner sur plein d'aspects de faire ça. Ça va arriver et voilà. C'est bien qu'il y en ait qui... Je m'aperçois qu'il y en a qui ont déjà fait la réflexion. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. Après, globalement, les retours que j'ai vus des gens qui ont XCOM, j'ai l'impression que ça reste quand même essentiellement un jeu autour des dés. Avec l'iPad, il n'est pas encore si présent que ça. Mais c'est normal. Je pense qu'on est au début d'une nouvelle tendance. Bah, il va falloir s'approprier ce nouveau...
Non, mais pourquoi... Enfin, tu risques aussi de détourner les gens de cette nouvelle plateforme en faisant en sorte que ça n'aille pas jusqu'au bout et en disant, bah non, c'est pas mature et nous, ça nous contente pas, si tu veux.
Je suis persuadé qu'il y a déjà d'autres projets en cours de développement chez d'autres auteurs, d'autres éditeurs sur le même sujet.
Et ben,
ça demande à l'éditeur, c'est pas tous les éditeurs qui peuvent développer à la fois une version, ils peuvent développer en parallèle l'application et la version carton.
Oui, alors ça me fait penser, puisque tu as mis dans le drive World of Yo-Ho.
C'est pas moi.
C'est moi ?
C'est toi ou c'est Fendel ?
Non, c'est moi. C'est les éditions volumiques.
Ah !
Qui font des choses... Alors, eux utilisent justement les plateformes, le cross-platform depuis longtemps. Et World of Yo-Ho, c'est un jeu de pirates dans lequel on va pouvoir utiliser un ou plusieurs iPhones et on va pouvoir justement marier le numérique avec le jeu de société. Je pense que Farid Betselem, il faut qu'on parle avec lui. Il faudra qu'on fasse un tour chez les éditions volumiques parce que justement c'est des innovateurs. C'est des gens qui...
On les a cités plusieurs fois déjà.
Ils sont en ébullition, ils essayent plein de trucs et ils vont avoir à un moment donné cette capacité à répondre à des besoins des éditeurs ou à être en mesure d'avoir cette technicité, de proposer des choses qui vont être juste.
Comment ils marchent actuellement?
Je sais pas.
Ils vendent leur service, d'accord. Allez.
Donc Farid Belsalem, si tu nous écoutes...
On va lui faire un Twitter en même temps.
Donc World of Yo-Ho, ça a été présenté à la Gen Con, aussi un jeu qui marie l'iOS avec le jeu de plateau. Mais il y avait d'autres choses sur cette Gen Con, il n'y avait pas que FFG, il n'y avait pas que ce nouveau type de jeu.
Alors c'est difficile en n'étant pas de suivre un peu tous les buzz, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. On peut s'aider avec le Geek Buzz de BGG. Donc pareil, c'est un peu comme pour Essen. Les gens ils peuvent aller voter s'ils veulent pour dire le jeu qui les a le plus marqué sur le salon. Évidemment, ils n'ont pas tout testé, ils n'ont pas donc.
C'est cheaté le Geek Buzz. C'est du bourrage d'urne.
Ouais, c'est un peu, c'est sans doute un peu du bourrage d'urne surtout, mais il n'y a pas tant de votes que ça, donc je sais pas comment.
Non, c'est marrant, il y a 66 votes pour le premier, ouais. 83 pour le premier.
Ah, le premier jour, il n'y avait pas encore de classement parce qu'ils avaient à peine eu 10 voix pour ceux qui avaient le plus de voix. Donc c'était pas beaucoup. Donc je sais pas comment c'était, c'est peut-être moins. Je pense qu'Aison ont plus de succès. Mais en tout cas, il y avait donc il y a eu quelques sorties, quelques jeux qui se sont fait remarquer, notamment parce qu'on commence par Dead of Winter. C'est un jeu chez Play That Game que Olivier apprécie pour Mice and Mystics.
Tout à fait.
Et c'est dans une série qui s'appelle Crossroads. Donc c'est une nouvelle série de jeux, une nouvelle gamme, on va dire, de jeux où l'idée c'est que les joueurs vont incarner des survivants et qui doivent forcément rester en vie. Donc c'est un peu de la survie, mais en même temps ils vont avoir en plus des objectifs personnels cachés.
L'équipe c'est coopératif pour tous les joueurs qui sont autour de la table et chacun a son propre but dans la partie.
Avec un et a priori c'est un jeu. Alors il est sorti en anglais, mais il arrivera chez Philosophia, c'est sûr. Il a déjà sa fiche dans BGG, indiquant qu'il sera en français chez Philo. C'est un jeu, a priori, quand même, où la trame historique est forte. C'est-à-dire, enfin, tu dois avoir un poids important. C'est genre...
Trame historique. Non, tu veux dire l'histoire.
Ouais, l'histoire. Dans ouais, pardon. Ouh là là. C'est pas bien. Hein. C'est la trame historique que j'ai mélangé. Oui, c'est l'histoire. En fait, elle est assez présente.
Après, tu vois, le scénario. Dead Winter, Antiquity, Dead Winter, Moyen-Âge, c'est ça.
Je sais pas, ils disent que c'est plutôt Crossroads, il y aura différents trucs. Et puis Dead of Winter, bon, c'est un environnement zombie, mais après... ceci dit, c'est quand tu vois Walking Dead, c'est peut-être par rapport à ce qu'il a fixé comme ligne éditoriale sur Crossroads, on le sait bien, tout ce qui est de la culture zombie, c'est justement ce côté, en fait, c'est pas les zombies qui sont intéressants, c'est la psychologie humaine.
Walking Dead, c'est pas les...
Walking Dead, ça le reflète très bien, et donc Dead of Winter, il va essayer en fait de faire ça, de faire Walking Dead autour de la table.
Encore un jeu de zombies. Ah non, c'est post-apocalyptique, mais c'est pas un jeu de zombies. C'est de survie plutôt. On m'a dit aussi qu'il
zombies, hein.
Il pourrait y avoir plusieurs personnages pour chaque joueur. C'est-à-dire que
tu joues plusieurs personnages.
Ouais, tu peux. J'ai entendu ça.
Peut-être un nombre réduit de joueurs, non?
Je sais pas.
Fendel a fait partie. Non, ça.
Justement que tu pouvais récupérer des personnages en cours de partie. Mais bon. Donc Dead Winter qui est classé numéro 3 au Gibbuzz. Et puis tu voulais parler de quel autre jeu?
Heroes Wanted, qui est le jeu qui a le plus buzzé, qui est un petit jeu simple en fait, qui sort de nulle part, hein, je sais pas d'où il sortait.
Alors excuse-moi, c'est drôle parce que il y a un truc qui est très intéressant sur le Gibbuzz, je vous invite à aller voir. C'est en fait la tendance
au fur du sur du
seul Tacoma New York était plutôt bien en fait, bien placé et qui est descendu.
Ouais, mais il a perdu une place en gros.
Ouais, mais si tu veux, voilà, il est descendu. Que Dead of Winter, il est monté un peu pour après un peu redescendre, et puis t'as Heroes Wanted qui lui la courbe est plate, ce qui veut dire qu'il est premier
top.
Et qu'il est resté premier.
Mais il y a peut-être du bourrage d'urne. Mais Fendel y a joué. Mais non, mais Fendel y a joué et c'est un jeu assez simple. En fait, en gros, c'est.
Pourquoi il n'est pas dans la chatroom? Encore en train de préparer des articles pour Ludivox?
Ah bah sans doute.
Ludovox, pardon. Non, je plaisante, il n'y a pas de problème avec. On n'a pas de problème.
C'est pas. Non, parce que de toute façon, je suis allé largement m'inspirer de ces reportages. Le concept, donc, en fait, c'est que les joueurs vont incarner des super. Héros entre guillemets, mais des super gentils qui vont devoir faire des missions.
Des super héros gentils.
Ouais, non, mais il n'y aura pas de super vilain. Ils ont deux pouvoirs qui correspondent en fait au haut et au bas du corps. C'est deux cartes en fait qu'ils posent. Ça va leur donner des pouvoirs et avec ça, ils vont devoir réussir des missions qui vont leur octroyer des points de victoire. Avec des trucs assez loufoques en fait. Les joueurs, évidemment, il va falloir qu'ils pensent à utiliser leur pouvoir tout au long de la partie. S'ils oublient, ils ont un gage.
Donc c'est très d'accord.
C'est très ambiance, a priori on rigole, voilà, c'est un jeu rien de sérieux. Un design
style comics
exactement,
tout à fait,
ce qui est logique pour du super héros.
Non, c'est vraiment style comics. On vous mettra des
surtout la couverture,
des illustrations, même les cartes, hein, quand tu regardes
ça
fait un peu Marvel.
Fendel a qualifié ça de sobre pour pas dire que ça ne lui déplaisait.
Ça m'étonne pas, mais c'est pas ça, moi, en fait. C'est vraiment c'est très américain et très voilà. Ça a l'air très rigolo.
Oui, en tout cas après.
Alors voilà, non,
c'est
mais
un format qui est court.
Attention, c'est du comics. C'est un jeu de cartes comics avec des super héros en Amérique. Et c'est là que tu vois que culturellement, on n'est peut-être pas prêt à.
Alors.
Enfin, nous aussi, parce qu'on est français. Mais ouais. Les Allemands, c'est peut-être pas ce qui va buzzer à Essen cet automne.
Je pense, l'air de rien, quand même, le fait que Disney a racheté la licence Marvel il y a quelques années et qu'on nous bassine avec des tas de sorties de jeux de films Marvel depuis, ça doit quand même aider à vendre un petit peu le. Tout ça. Bon, enfin, c'était pour en parler parce que ça fait partie des jeux qui ont le plus buzzé. Je sais pas du tout s'il bénéficiera d'une version française ou quoi que ce soit, parce que, à mon avis, c'était inconnu, l'éditeur, je sais pas même pas d'où il sort. Autre jeu, il y a un autre jeu, Shadowrun Crossfire, qui va.
Avec la licence Shadowrun ?
Ouais, la licence Shadowrun, c'est un jeu coopératif de deck building.
Ouh !
Voilà.
Coopératif de deck building ?
Tu vois, tout de suite, voilà, Shadowrun, coopératif deck building, t'as plusieurs choses. A priori, il y aurait plusieurs missions à réaliser.
Ouais, c'est pas mal.
Protéger des clients, enfin tous les trucs que t'as dans le jeu de rôle traditionnel.
Alors moi, la première
run,
question,
choses comme ça.
Shadowrun, c'est un univers post. Alors c'est pas post-apocalyptique parce qu'en fait il y a pas d'apocalypse, c'est juste
cyberpunk.
Qu'il y a une transformation. Ouais, cyberpunk.
Cyberpunk est fantastique.
Ouais, il y a une transformation. Les gens au hasard vont soit avoir des pouvoirs, soit se transformer. Les corpos, donc les grosses, on est en plein dedans, hein. C'est quand vous voyez Amazon qui rachète Twitch ou des trucs comme ça, donc Amazon, Google, tout ça,
c'est
les corpos.
C'est Cyberpunk 2020.
Et puis c'est donc on a des runners, les gens qui sont dans la matrice, donc ça aussi on est en plein dedans, et il reste plus que les gens qui vont se transformer en orc ou en troll, hein.
Je sais pas encore
arriver,
fait mon
choix. On sera clairement dans Shadowrun, on y est presque. C'est vraiment et en plus c'est un très bon jeu de rôle Shadowrun, je ne saurais que vous le conseiller.
Je sais pas si quoi il a été réélu, je sais pas trop où il en est dans ses éditions.
Ouais, on s'en fout.
Oui, si vous voulez,
je pense que ça doit se trouver, ne serait-ce que d'occasion, ça se trouve et c'est un entre guillemets vieux jeu de rôle mais ça se joue facilement et c'est très très bon, sauf ne jouez pas les runners, ceux qui sont dans la matrice là. Ceux qui se branchent sur Internet, enfin sur...
Je sais plus comment il s'appelle, mais peut-être Runner, hein, dans Shadowrun.
Ouais, c'est peut-être ça. Donc, un jeu de société basé sur cet univers, c'est déjà une bonne chose.
Et en plus, où tu fais évoluer ton personnage, un petit peu comme dans Pathfinder.
Oui. Alors, j'ai joué un jeu qui s'appelle Defender of the... Et j'ai oublié le nom.
Rims of the Galaxy.
The Galaxy.
Ouais, j'ai vu ton tweet.
Defender of the Galaxy, c'est un équivalent à Gears of War. Enfin... Il y a quatre personnages qui ont chacun leur spécificité. Il y a un sniper, il y a un medic, il y a un... Voilà. C'est très très bien, c'est bien fait. On lance des dés. C'est très tactique. On contrôle les aliens. Mais là où je veux en venir, c'est qu'encore une fois, il y a l'effet leader. Et je ne peux pas séquer l'effet leader. Et en fin de compte, j'adore le JCE du Seigneur des Anneaux parce que tu peux pas avoir d'effet leader. J'adore un habit parce qu'en général, tu dois pas avoir d'effet leader. Et tu vois, j'ai toujours... Ça me saoule.
En Shadowrun, tu dois y échapper.
Quand t'as un mec qui connaît bien le jeu, qui dit « Ah ouais, mais là, tu devrais faire ça. » Ben moi, la seule chose que j'ai envie de lui dire, c'est « Merde, je vais faire ce que je veux. » Et ça va plomber l'ambiance et le jeu parce que voilà.
Il faut jouer à Dead of Winter.
Et donc, il faut un félon. Et donc,
voilà.
Le fait d'avoir sa propre... soit comme pour... j'ai oublié.
Dead of Winter.
Non, le vieux jeu...
Camelot. Les chevaliers
Battle
de la
Galactica.
Ah non, Battle
soit,
Star. Ah oui,
voilà.
Les Cylons.
Toi, soit... il faut absolument qu'à un moment donné, tu saches pas si le mec qui est en face de toi est vraiment dans ton camp.
Et si ce qu'il te conseille, effectivement, ouais, c'est bien.
Voilà, ou alors qu'il y a un peu de pression, enfin vraiment de pression, et que tu prends, on en parlait dans la première partie, si tu joues à Zombie 15 et que tu t'engueules avec tes coéquipiers, ou que tu leur dis quelque chose et que ils réagissent pas comme il faut ou que machin, tu peux donner des conseils, mais tu peux pas,
ouais. Zombie 15, ça va trop vite, t'as pas de leader.
C'est ça, ça va trop vite.
Space Alert non plus, normalement.
Bah ouais, mais sinon, si vous avez quelqu'un qui vous dit quoi faire dans un jeu de société, dans un jeu coopératif, ne jouez plus avec lui.
Changez de joueur.
Et est-ce que tu avais un autre jeu qui est ressorti un petit peu de cette liste
Parmi les jeux qui ont buzzé ou etc. Non, après, je vais parler de trois autres petits trucs comme ça, mais pas de...
Pour info, pour fin de Noël, le jeu du salon, c'était Sheriff de Nottingham. Voilà. C'était une brève.
Tu nous en dis plus ?
Non.
Ah bah d'accord. Oui, mais allez, je l'ai voir. Vu, mais j'ai pas trouvé d'infos. Enfin, j'ai pas cherché. Voilà. Je pouvais pas tous les citer. Qu'est-ce que je voulais dire, les jeux, les éditeurs français. Enfin, il y avait Five Tribes. Donc
attends, excuse-moi, dans la geek list, il y avait des choses aussi plus entre guillemets connues. King of New York.
Ouais, mais j'allais en venir.
Pandémie. Cash and Gun.
C'est Pandémie Contagion. C'est, ça arrive aussi. Mais en fait, j'ai fait un.
Ah. J'ai fait... écoute. Je t'écoute.
Après, tu me recompléteras.
Yes.
Parce que je voulais parler un petit peu plus des éditeurs français entre guillemets. Parce que
francophone.
Des francophones, ouais, parce que
bah,
des offenders sont
pas français
sont entre les deux.
Bon, et mais il y a Cash and Gun, c'est belge.
Voilà. Mais il y a Five Tribes, donc chez Days of Wonder qui sortait. Il sort en même temps en français, donc de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est juste pour dire que, encore une fois, ça sort un petit peu avant aux States parce que c'est la Gen Con. Donc c'est ce que. Et c'est avant Essen, avant ce serait sorti à Essen, ouais, exactement. Donc effectivement, chez Yellow, bah, il y avait Zombie 15, qu'on ne présente plus, et King of New York, qui est une ressucée de King of Tokyo, n'empêche que le buzz était présent, et d'autant plus que leur boîte était bloquée à la douane, et donc ils en avaient 50 par jour.
Mais ça, c'est comme le Monopoly.
Mais je crois que ça s'est débloqué en fin de salon.
Bientôt, il y aura le King of Lyon.
Ouais.
King of Paris.
King of... Ah, ils ont quand même changé des trucs hein, dans la règle. Hein,
oui, mais comme le Monopoly.
Voilà, ouais. Bah ouais. Je sais pas s'il y a encore. Est-ce qu'il y a des gares dans King of.
Non, mais il y avait vraiment des lieux supplémentaires. Il n'y avait pas que le lieu central. Dans King of Tokyo, t'as que Tokyo. Et là, les monstres pouvaient prendre d'autres lieux que.
Tu peux attaquer d'autres quartiers, mais ouais, du coup, tu vas du coup t'attirer un peu plus l'armée sur toi, etc. On est plus proche de Rampage, en fait, finalement, du jeu vidéo d'origine. Pas le jeu de société, hein. C'est un jeu de vidéo Rampage
quand
des monstres
montais sur des voilà, comme dans sur Ralph le monde de Ralph.
Bah, j'ai pas vu le monde de Ralph.
T'as pas vu le monde de Ralph.
Faut que je regarde.
C'est sympa.
Oui, mais gamin, j'ai déjà vu, mais je pense pas.
2, 3, 4, 8 fois.
Voilà. Zombie 15, juste, je voulais dire, Yellow, ils ont fait une maquette 3D de folie. Si vous avez déjà vu celle d'Aison ou à Cannes, faite par Nicolas, l'autre auteur.
Schlewitz.
Voilà, l'autre auteur. Nicolas Schlewitz, d'ailleurs, nommé par certains VRP de l'année. Tellement
il est
présent sur les salons et qui fait du non-stop, il ne mange pas, il ne boit pas. Je ne sais pas s'il ferme les yeux.
Il a une sonde.
Non.
Il a une petite poche.
Je ne sais pas. Bah non, comme il ne boit pas, de toute façon, il n'a pas besoin. Donc il tient. Il tient juste comme ça. Un truc de fou. Il faut juste être le remonter un peu de temps en temps. La clé derrière, clac.
Ça, c'est Sabrina qui
le remonte un peu. Voilà, c'est ça. Et puis, il n'écoutera pas de toute façon.
C'est son épouse, hein. Il n'y a pas de problème.
Voilà. Ils ne sont pas encore rentrés donc, de la Gen Con, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas, il animait donc, sur une méga table.
Et si l'avion s'écrase, est-ce que c'est prévu que tu touches toutes les royalties?
Non, c'est ses ayants droit. Ah non, chacun son contrat.
Il faudrait qu'il meure avec ses enfants, là. Non, sinon,
dans ces cas-là, peu importe, je ne toucherai pas. Ouais, ce sera ses parents.
Mmh. T'as mal négocié, en fait.
Bah, comment dire. Non, à la rigueur, étant donné que c'est un ami proche, je préfère que...
Excusez-moi.
Voilà.
Non, on est passé un peu.
Bref.
À des...
Oui, donc la table, c'est
1m20. Plus alcoolisé que le café, donc...
La table, c'est 1m20 par 1m80, c'était immense.
1m80
1m80, ouais, de long.
Mais en fait, les gens se déplaçaient et ils couraient en même temps que les...
Oui, je pense
que
c'est compliqué, parce que déjà, le plateau, déjà, je sais pas comment il fait, mais il est au moins 3 fois plus petit.
Il y avait un croupier
qui est déjà joué à Cannes et tout ça, il est déjà petit. Il handicap déjà les joueurs qui perdent du temps là-dessus.
Il lançait la horde, tu vois. En fait, il y avait un seau.
Putain, une pelleteuse.
Une pelleteuse. C'est l'Amérique, hein, ils avaient un petit robot avec une pelleteuse et ils balançaient toute la horde. Bref. Est-ce qu'il y avait du cosplay zombie?
Ah, du cosplay zombie, je sais pas. Je vais en revenir après. Il y avait un gros défilé le dernier jour.
Mais je suis un peu...
Plus qu'Essen, a priori.
Ouais, Essen, il y a eu quelques années où il y a eu un peu du cosplay, mais en fin de compte, c'est très Japanimation avec des jeunes filles avec des... J'ai vu des jeunes filles avec des jupes en cartes à jouer. C'était joli, ça. Mais sinon, voilà, que ça va pas très loin.
Non, là, il y a pas mal de trucs sympas.
Et par contre, effectivement, la Gen Con, il y avait des gens qui s'étaient costumés juste pour être costumés et juste pour faire la parade.
La parade du dimanche.
Du dimanche.
Parce que c'est le dimanche, en fait.
Est-ce qu'on viendra costumer à Essen, nous? Un meeple, on pourrait... Ouais.
Comment tu sortiens du jour, d'ailleurs, là, comme ça?
Non, mais je vais en parler, peut-être qu'on pourrait se faire des costumes meeple. brandé proxy jeu. Là, vous verriez le, le regard de Jérémy qui dit.
J'imagine bien
quoi?
Un gros bonhomme en mousse là, se promener.
C'est ça.
Oui, bah, Olivier fera le premier pas cette année, il sera tout seul, et puis je le rejoindrai peut-être en meeple orange. Tu seras meeple quelque part.
Alexis, il est toujours.
Oui, oui, il bah, dit violé, qu'il a vu 10 personnes en cosplay l'année dernière qui se l'avaient fait très peur. Mais bon, Alexis, en même temps, c'était son premier Essen, il est un peu.
Ouais, mais c'est, excuse-moi, c'est le cosplay allemand, quoi. C'est pas.
Non, du gros cosplay zombie dans l'année dernière, ils avaient. Voilà,
c'est pour ça. Non, mais faites des zombie walks, ça, c'est super, les zombie walks.
Quand ça tombe pas pendant Essen.
Bah, on en a tous l'année, les zombie walks, hein.
Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est pareil. C'est
et une, surtout, c'est la dernière.
Une boîte alors, de prod qui organise ça.
C'est ça. À Lyon, c'est AOA Productions qui fait ça. Et le thème. Pas, hein. Ouais, et le thème de juin, c'était Zombie on the Beach ou un truc comme ça. Et
en maillot.
Et si vous voulez voir des nymphettes un peu dénudées, allez faire les zombie walks. C'est vraiment. Bref. Voilà.
Olivier fait ça avec Eve. Hein.
Mais moi, je me dénude aussi. Je suis plus une nymphette, mais je me dénude pour les zombie walks.
Ah bon?
Ouais, j'ai fait celle de
l'année dernière
de
sous la pluie. Là,
ouais. c'était super.
C'était merveilleux.
Mais j'ai jamais vu autant de.
Ah, puis t-shirt mouillé du coup.
Que.
Ok, on dérive.
Oui, on a dit qu'on digressait pas cette année.
Ah, surtout qu'on est sur la Gen Con.
Oui, c'est ça. C'est toi, tu voulais. T'as parlé de Zombie 15 aussi.
Ah non, c'est toi qui parlais de cosplay. Alors. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur les éditeurs français? Il y avait notamment un truc qui va arriver chez Philosophia qui est Pandémie Contagion.
Alors c'est quoi ça?
Alors en fait ça n'a rien à voir avec Pandémie, c'est pas une extension ou quoi que ce soit. On oui. inverse les rôles.
Les éditeurs surfent sur la vague Ebola.
Alors c'est encore une fois le hasard qui a brillé, je pense. Hein. et donc on inverse les rôles, c'est-à-dire que cette fois-ci t'es pas les humains qui vont tenter de sauver le monde, t'es la maladie qui va tenter de t'es incurable, donc tu vas tenter de raser l'humanité.
Il y a une application iOS comme ça où il faut détruire le monde et en fait t'as des upgrades qui te permettent d'être d'incuber plus longtemps ou d'être plus virulent ou de toucher certains. Ouais, non, mais et en fait, les facteurs, tu vas changer un peu les facteurs, ce qui fait que, par exemple, là, tu pourras. Enfin, comme Ebola, qui est normalement censé être très court et les gens meurent très vite, en fin de compte, normalement, c'est une épidémie qui ne doit pas beaucoup s'étendre. Donc voilà, enfin là, je sais pas si c'est la même chose pour Contagion, mais.
On dit que ça s'appelle Plague et c'est sur Android et Windows.
C'est ça, voilà. Merci.
Merci à Chatroom. Eh bien, voilà. Non, bah là, c'est un peu pareil. Tu joues les virus, mais après, en fait, donc il y a une petite
c'est
vidéo
drôle,
parce que c'était Philosophia qui le présentait en français, enfin en québécois, avec l'accent. Le jeu, c'est un jeu de majorité. Donc, il va falloir être opportuniste parce qu'il va y avoir des décomptes qui vont arriver de manière un peu impromptue. Il faudra être bien placé sur les décomptes. C'est un petit jeu qui doit se jouer en une demi-heure, mais on n'est plus du tout dans l'esprit. D'ailleurs, c'est pas.
C'est pas coopératif.
Non, c'est pas coopératif, évidemment, puisque c'est tout l'inverse. Et l'auteur n'est pas l'auteur de Pandémie.
Matt Leacock.
Voilà, n'est pas Matt Leacock, merci.
C'est bien dommage. On n'avait pas dit qu'il y avait un truc. Y aurait un autre Legacy. C'était quoi?
Si,
pas dans Pandémie Legacy.
Il y a un Pandémie Legacy. Pandémie Legacy, on a dit que c'était peut-être à l'étude. Et il y a aussi un rôle. Enfin, il y a un Pandémie version D qui se profile aussi. Mais très franchement, Pandémie, c'est pour moi un jeu coop qui justement souffre énormément d'un effet leader. Il permet certes à des gens peu joueurs de découvrir les jeux. Ouais, mais à la rigueur, pourquoi pas sortir maintenant presque le désert interdit quoi. L'île interdite ou le désert interdit. Pandémie, tu vois, actuellement, il est.
Surtout que.
Il est sur la balance, je pense que si je le vends pas cette année, c'est l'année prochaine qu'il part, quoi. Je commence à me dire qu'il a plus sa place.
Cocktail a fait un super. Enfin, c'est une coédition, donc. Mais la boîte métal. Alors, le désert interdit, encore mieux. Avec. Cet aéronef.
L'aéronef
que
tu reconstitues.
C'est magnifique, quoi.
C'est plus aussi, dur.
Tu vois, je fais une aparté, j'ai la boîte de Abyss qui est sur un meuble, qui trône dans mon salon.
Qui te regarde.
C'est ça. Et en fait, eh ben, c'est comme ça qu'on va faire venir les gens aux jeux de société. Et je disais, t'as des gens qui, avant...
En mettant plus le nom de l'auteur sur la boîte.
C'est ça. De toute façon, on s'en fout de l'auteur. Non, je vais me faire taper. Non, on s'en fout pas, mais si tu veux, c'est... dans les années 80-90, les gens, ils achetaient... Mon père a acheté un superbe échiquier
Les jeux d'échecs typiquement.
Marbre, les gens, ouais. Tu vois, le truc vert, je sais plus comment ça s'appelle. La pierre verte.
Le jade.
C'est super, quoi. Ouais, c'était pas de l'émeraude, c'était plutôt du jade.
Oui.
Et c'était une table basse. Et tu te dis, mais pourquoi, quoi, enfin, t'as un super échiquier, tu joues jamais aux échecs. Et c'est comme les Othello que tu laissais sur ta table. C'est toute la vague sur laquelle a surfé Gigamic dans ses débuts. Et là, on y revient, si tu veux. C'est le truc, la boîte d'Abyss. Tu la laisses bien en vue, les gens disent oh c'est super, c'est quoi,
parce que si tu mets juste la tranche, du coup tu bénéficies pas du,
et puis tu l'ouvres et là tu leur dis oh regardez c'est des perles, oh c'est des perles, mais c'est des vraies perles, non c'est con ou quoi. Et ce que je veux dire, c'est que en fait on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, et que la boîte de l'île interdite, enfin c'est super, et t'as dans l'île interdite t'as des petites sculptures qu'il faut récupérer, tu vois les totems, je sais plus comment ça s'appelle. Le désert interdit c'est un peu plus compliqué, donc c'est vraiment pour moi une marche après. On peut pas le proposer à des non-joueurs, parce que sinon ça va peut-être rebuter, ça va être un peu trop compliqué, un peu à l'image de Ghost Stories qui est un peu compliqué pour des non-joueurs. Cela dit, c'est beau, quoi, et il faut faire quelque chose de beau maintenant, et c'est pour ça que maintenant notre époque, elle est plus aux jeux de société allemands, elle est plus à Istanbul, elle est plus à des jeux comme ça, elle est pas à Camel Up. Ils auraient relooké ça.
Encore Camel Up, ils ont des jolis chabous.
Ouais,
en forme de vague.
Embaucher un graphiste, j'en sais rien. Arrête de prendre des images Google, j'en sais rien. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. C'est magnifique ce qu'ils ont fait avec Abyss, c'est magnifique ce qu'ils font avec l'île interdite. C'est super joli. Et déjà, Pandémie a un temps de retard là-dessus, quoi.
Ouais, même alors le relookage, déjà, ils le sauvent quand même pas mal. Hein. Ils ont relooké, je rappelle, Pandémie cette année, c'est quand même mieux. Mais on s'est très très éloigné de la Gen Con.
La Gen Con.
Non, bah en gros, chez les éditeurs français, j'avais pas grand chose à dire. Après,
épisode,
on a déjà parlé.
Excuse-moi, épisode charnière.
Oui, dans l'épisode charnière. Donc on digresse encore, c'est
normal.
On a
encore le droit.
Voilà. Oui, parce que j'ai encore pas mon taser pour électrocuter Olivier quand il digresse un peu trop.
Mais non, mais bon.
Le matériel devrait arriver. Hein. Merci les backers.
non, mais réagissez. Enfin, je veux dire, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Si vous voulez pas entendre des trucs comme ça.
Dans la chatroom, il confirme effectivement.
Que quoi ? Qu'ils sont pas d'accord ?
Non, au contraire, que le visuel, que le matériel a son importance.
Ouais.
Qu'est-ce que j'avais à dire ? Oui, donc du côté des éditeurs français, bah voilà, il y avait donc tous les auteurs, les Antoine Boza, Bruno Catala, ils étaient tous là-bas.
Tous les auteurs, tu n'étais pas.
Ludonote, non, mais je parlais, moi je suis joueur. Je suis auteur par accident, mais je suis joueur avant tout. Alors que voilà, donc il y avait donc les auteurs Bankable étaient là-bas. Et à quoi qu'il fait Nicolas Schlevit. Et
il est bankable.
Il est bankable. Il te fait l'animation et il te vend un jeu à lui tout seul.
Puis il mange pas. Il mange pas, il fait rien d'autre.
Il y avait aussi Ludonote
tous les soirs.
Ouais. Bref, il y avait tout le monde.
Mais ils ont raison, Ludonote, parce que c'est aussi un lieu de rencontre. Je pense que tu vois, il y a encore une digression. Après Essen, il y a Nuremberg, c'est un lieu de rendez-vous et de rencontres professionnelles. Je pense aussi que les gens sont allés à Gen Con pour dire de lier des liens et d'arriver à pénétrer le marché américain. Tu vois, c'est pas que pour aller faire du shopping et manger et voir des parties de football américain, je pense.
Tiens, bah d'ailleurs, tu sais que le samedi soir, il y avait un match amical.
J'en parle pas pour. Attends, tu crois quoi?
Ils étaient tous sur Twitter, Ignacy Trivicek, etc. Ils ont tous tweeté comme quoi ils étaient. Je sais que toute la team Yellow y était. Nicolas, je sais qu'ils avaient prévu à l'avance, ils avaient acheté les billets.
Bah, ils ont raison. Hein.
Bah, ouais, franchement, leur place, je serais pareil. Parce qu'en fait, le stade, il est juste à côté de.
Et il y a quoi, Essen, pendant qu'on y est? J'ai regardé, il n'y a pas grand chose.
Il y a quelques années, c'était la ville de la culture, tu sais, la capitale de la culture européenne.
Oui.
Hein, on s'est bien gardé de baser tout. Nous, en fait, quand on a Essen, on ne fait que Essen. Enfin, on fait que le salon, quoi. On fait que le
shopping. Oui, et puis encore cette année, on a prévu de faire une couverture du salon. Donc, en fait, c'est juste un truc à la con qui nous plombe notre salon, parce que on passe nos soirées à monter la petite rubrique d'une demi-heure, une heure, le débrief qu'on fait, et puis après, je erre dans les couloirs de l'hôtel pour trouver du wifi. Donc voilà. Donc, on n'a pas le temps d'aller voir du football américain à Essen.
Non, sûrement pas.
Mais c'est revenons bon à la Gen Con.
je crois qu'on y arrivera plus. J'avais fini avec les jeux dont je voulais parler.
Super.
Mais toi, tu étais sur le Geek Buzz et tu voulais me parler d'autres jeux. Mais non. Du coup, non, c'est fini.
Bah,
okay.
Si. En fait, on a parlé avec Thomas Provost il y a fort longtemps, puisque c'était au dernier SN de Cash and Gun. Il est apparu dans le Geek Buzz. Et puis, il y avait Yellow qui a une antenne en Amérique.
Oui.
Qui a aussi son blockbuster qui est King of Tokyo. J'espère pour toi que Zombie 15 va trouver son succès parce que ça serait mérité. Je sais pas si on peut en faire un game system, malheureusement. Alors, peut-être basé sur le temps limité et sur le.
C'est pas un game system parce qu'il faut le retravailler pour d'autres thèmes. Et quand on fait des scénarios, au bout d'un moment, on tourne en rond. Mais
ouais.
Il faudra toujours. Enfin, de toute façon, on a plein d'idées encore pour s'il faut faire évoluer le jeu. Mais...
Bon, moi, j'en suis. Pour information, j'en suis au troisième scénario. Il faut absolument que je fasse
avec
les 15 rapidement. Ou au moins que j'en fasse vraiment un nombre significatif pour en parler dans le prochain numéro.
Oui, parce qu'il faut aller au moins jusqu'au, il faut dépasser les 5 premiers scénarios, il faut au moins aller jusqu'au 10e et voire 12e pour vraiment sentir tout le sel du jeu, quoi.
J'ai déjà une petite idée et je sais à quel point c'est diversifié.
Ouais.
Mais j'ai un problème, c'est que si je bute sur un scénario, je vais avoir envie de le refaire, en fait. C'est aussi l'intérêt d'un jeu coopératif.
Si tu le perds.
Bah oui.
Mais l'avantage, c'est qu'il est déjà en place, donc tu vas vite, tu peux vite le rejouer.
Oui,
quoi.
Et puis les premiers scénarios, en fait, tu changes pas grand-chose.
Non. C'est fait pour.
Voilà. Donc Legend Con, est-ce qu'on ira l'année prochaine?
Je pense pas.
Pourquoi?
Parce que j'ai dit, c'est un budget qui est quand même plus important.
Aussi, c'est
que
un
ça...
budget. Pourquoi l'année prochaine, on ferait pas la
Legend Con? Parce que le billet d'avion pour aller à Indianapolis, de passer par New York, c'est pas le billet d'avion.
Ah,
de...
mais après, on ira en amoureux chez du Niagara. Vous avez pas entendu.
Il y a déjà des crises de jalousie à l'état dans le duplex. T'étais pas parti de coucher normalement?
Il y a de la lumière encore.
Ah là là.
Voilà, donc la Gen Con, c'est quand même c'est un peu comme Robin des Jeux, c'est The Place to Be cette année. Et puis ça. Alors, pour moi, il y a deux choses. C'est un. Les gens sont contents d'y aller et c'est vrai que comme toi et moi, on a l'habitude d'aller à Essen. Ça fait 10 ans qu'on y va, plus de 10 ans qu'on y va.
On est blasé, quoi.
Plus. Non, c'est que c'est quelque chose. C'est un peu. Pour moi, avant on y allait en...
Ah non, mais les yeux.
On allait quoi? Les yeux quoi?
Les bas de découpe, plein de découpe. Enfin, on découvrait tout, quoi.
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est en fait, c'était un pèlerinage. On y allait en minibus. On était 10 dans le minibus, 9. Et si tu veux, on mettait 10 heures pour y aller, on était content, on était jeune à l'époque. Ouais. Je vous rappelle que c'était 10 ans en arrière, ou plus de 10 ans. Et on était, tu vois, c'est un pèlerinage, c'est rencontrer des gens, c'est quelque chose qu'on connaît, on sait comment ça se passe, on a vu les choses évoluer. Là, c'est nouveau, quoi. C'est nouveau, mais est-ce que c'est un soufflet? Ou alors, est-ce que c'est une tendance à long terme? Et est-ce que vraiment la Gen Con va prendre la place d'Essen? Et est-ce que ça sera un vrai prologue à Essen et un vrai soufflet pour toi?
Non, c'est pas un soufflet, ils vont se compléter. Les marchés sont vraiment différents entre États-Unis et Europe.
Donc il y a un vrai intérêt à la Gen Con l'année prochaine.
Ça dépend, parce que comme on disait au début des news, en même temps, patience, et le jeu dans un an il est en français. Donc tu le retrouves d'une autre manière. Bon, Heroes Wanted peut-être pas. Et encore que maintenant, je pense que de toute façon, tout bon jeu, tout jeu qui se fait remarquer, il finit en français. Il y a pas ce besoin. Après, c'est vrai, si je pense que on dit toujours que pour les joueurs, tout le monde ne va pas forcément à Essen chaque année comme nous on le fait. Il faut y aller au moins une fois.
Non, mais nous, c'est
le pèlerinage.
C'est
mais nous,
un peu une obligation professionnelle.
Nous, c'était presque professionnel, exactement. Mais peut-être que la Gen Con, c'est pareil. Il faut peut-être se dire, faut peut-être y aller au moins une fois, quoi. Alors justement. L'année prochaine, attention, les dates changent, ça tournera pas autour du 15 août. C'est du 30 juillet au 2 août.
D'accord.
Donc voilà, si tu veux réserver le billet d'avion,
c'est quand le flip?
C'est avant, alors on a donné les dates alors du 8 au 19 juillet de mémoire, ce que j'ai vu dans la chatroom.
Je fais le flip entre le 8 et le 19. Après, la semaine d'après, je me repose. Et la semaine d'après, je vais à la Gen Con, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Bah écoute, parfait. Je valide. Faut que je mette des, faut que je mette des sous de côté, mais à part ça, c'est bon.
Ok, ben voilà, c'est tout pour ce reportage d'un salon, n'y étions pas. Mais je me suis beaucoup basé sur les retours de les chroniques de Fendel, notamment, qui étaient très intéressantes, qu'il a faites sur Ludovox.
C'est un garçon très intéressant.
Et je crois qu'il est revenu pas mal les yeux, pareil, qui, tu vois, qui pétillait d'avoir vu tout ça.
Ça, c'est les crocodiles.
Plus le jet lag. Mais crocodile.
Ouais, parce qu'il est... Il va m'en vouloir quand il va écouter ça. On va voir s'il écoute. Il est passé par Miami, en fait, pour la Gen Con. Tu vois, il a fait un peu comme Nicolas et Sabrina, mais bon, bref.